L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport, le rendez-vous sport de Transistor une fois par mois avec la fine équipe. Nous retrouvons Hugo et Fred. Et à quelques heures de l'entrée en lice du Stade Brestois en Ligue des Champions, c'est un entretien avec l'ancien entraîneur brestois Jean-Marc Furlan que nous vous proposons de découvrir dans le LEM Sport.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transistor. C'est le grand retour du LEM Sport. Le Stade Brestois dispute ce jeudi 19 septembre le premier match de son histoire en Ligue des Champions face au club autrichien de Sturm Graz. C'est un événement historique, mais cet événement n'aurait sans doute pas pu voir le jour si un homme n'était pas parvenu à faire retrouver la Ligue 1 de manière spectaculaire et fervente au Stade Brestois il y a 5 ans. Vous l'aurez peut-être compris, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un homme singulier. C'est l'histoire d'un ancien arrière central, parfois qualifié par lui-même et les autres de rugueux, devenu entraîneur avec un style à contre-courant. La philosophie de ses équipes, la prise de risque, l'audace et l'émotion. Bonjour Jean-Marc Furlan, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, avec plaisir.
Je
vous remercie sincèrement de m'avoir invité.
C'est un grand plaisir avec toi. Nous allons bien sûr revenir sur ton glorieux passage à Brest qui a marqué les esprits dans la cité du Ponant et en Bretagne footballistique de manière générale entre 2016 et 2019. Nous allons aussi évoquer ta vision du football, ta carrière d'entraîneur, ce qui t'a donné envie de donner cet aspect à ces équipes, aux équipes que tu as entraînées, cet aspect spectaculaire, cette philosophie de jeu. Et on essaiera en fin d'émission d'évoquer un petit peu ce qui peut secouer à l'heure actuelle le monde du football et ce qui semble être des évolutions, qu'elles soient tactiques ou en dehors des terrains. Merci Jean-Marc. Le LEM Sport 2024-2025, c'est parti. Avec moi également Frédéric Sévère. Bonjour Fred.
Ouais, bonjour. Puis bon, je crois que nos auditeurs vont être ravis d'avoir un entraîneur de ce calibre sur nos ondes.
Il est probable effectivement que cela fasse de nombreux heureux et des heureuses également. Alors Jean-Marc, en 2016, tu rejoins le Stade Brestois qui évolue donc en Ligue 2. Comment est-ce que cela se noue? Comment le contact naît entre toi et le SB 29? Dans quelle optique es-tu à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se passe pour que ça matche d'emblée entre le Stade Brestois et Jean-Marc Furlan?
Non, en fait, j'avais une réunion avec Denis Le Sem et avec Grégo Lorenzi sur les bords de la plage. Et c'est aussi mon agent Yvon Pouliquen qui m'avait engagé là-dedans. Et quelque part, au bout de 3 ans, on est monté et c'était très 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 agréable quoi. Voilà, très 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 agréable. C'est vraiment un grand plaisir d'être monté et maintenant. Tu te rends compte qu'il joue en Ligue des Champions. C'est très agréable. C'est très agréable.
Tu arrives donc à une période où le club a vécu des saisons très compliquées, notamment avec un désamour du public qui s'était un petit peu installé. On connaît l'importance que tu attaches aux liens sociaux dans la pratique du football et dans ton métier d'entraîneur. Comment on fait pour avoir cette ambition de faire revenir les gens au stade et de faire adhérer un public au comportement d'un groupe et à ce que va dégager l'équipe sur le terrain? Est-ce que c'était ton objectif premier ou
non? Moi, c'était mon objectif parce que, en fait, moi, j'adore la possession du ballon et j'adore le jeu offensif. Alors que moi, j'étais un stopper, j'étais un arrière central et moi, j'avais adoré quelque part. Le FC Nantes quelque part j'adore la possession du ballon et j'adore le jeu d'attaque et voilà et ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir parce que tu te rends compte que le stade était à chaque fois plein et c'était très 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 agréable moi, j'adorais la position du ballon et le jeu offensif. Voilà.
C'est des éléments qui font partie de l'ADN du Stade Brestois depuis ton ton passage là-bas. On va faire des petits fils conducteurs par rapport à ta période et à l'actualité chaude du moment, qui est cette première de l'histoire en Ligue des Champions pour les partenaires de Brendan Chardonnay. Comment est-ce que tu perçois le travail d'Éric Roy, et notamment la saison dernière qui a été extraordinaire à tous les niveaux? Et est-ce que tu arrives
à... c'était très très agréable de voir jouer le Stade Brestois. C'était très 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 agréable. Alors maintenant c'est un peu plus difficile, mais c'est très 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 agréable de voir jouer le Stade Brestois, et c'était quelque part un jeu offensif très 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 agréable et très 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 tonique et très très agréable, tu vois ce que je veux dire. Oui. Avec Brendan Chardonnay, avec voilà, il y avait plein de joueurs qui me faisaient adhérer.
Que ce soit avec le ballon ou en dehors du terrain, on l'a bien compris.
Oui, c'est aussi... ça, voilà, exactement.
C'est aussi une affaire d'état d'esprit. Est-ce que, à ton sens, cet état d'esprit, ces valeurs, sans que le terme ne soit trop galvaudé, elles peuvent permettre à Brest de performer, y compris en Coupe d'Europe?
Quelque part, ils ont des clubs très, très, très costauds. Très, très costauds. Et comment peut-on évaluer des clubs très, très, très solides et très costauds? Voilà, ça c'est. Mais bon, quelque part, le public va adhérer complètement à cette fusion. Cette fusion, et avec les opposants qui va y avoir en face.
On peut penser qu'effectivement, malgré un contexte très très hostile à tous les niveaux, oui, ça peut permettre aux joueurs de se sublimer. Ça s'est déjà vu à maintes reprises dans l'histoire du football, à différentes échelles. Justement, si on prend une échelle un peu globale, toi, en tant qu'entraîneur, quand tes équipes devaient affronter un des effectifs beaucoup plus huppés sur le papier, sur quel levier est-ce que tu insistais ou tu insisterais encore pour permettre, par exemple, de bien entrer dans le match ou d'avoir le bon comportement globalement?
Non, moi, ce que j'adhérais complètement, c'est avec la possession du ballon. Comment tu possèdes le ballon? Alors, moi, je disais à mes joueurs, si vous gagnez 4 à 3, vous êtes la plus mauvaise défense. Mais par contre, vous gagnez 38 matchs 4 à 3 et vous êtes champion de France. Voilà. Vous êtes champion de France. Voilà. Et pourtant, vous êtes la plus mauvaise défense. Mais c'est très, très, très agréable de marquer des buts et d'être performant.
Oui. Justement, cet aspect extrêmement spectaculaire de tes équipes et de ta période brestoise s'est ressenti très très vite lors de la première saison en 2016-2017, où il y a énormément de rebondissements dans cette saison. Comment est-ce que tu vis cette sorte de montagne russe entre le moment où vous avez occupé le haut du classement et puis cette fin de saison un peu plus complexe, mais tout de même un espoir qui est revenu à la fin? Qu'est-ce que ça a fait de se retrouver dans cette situation complètement folle, en fait?
Non, en fait, quelque part, il y a une construction. Tu dois construire un projet. C'est comme à Auxerre, j'ai construit un projet sur 3 ans et on est monté. Et moi, je suis un des recordman des montées en Ligue 1. J'en ai 5. Et voilà. Et donc, quelque part, comment tu montes un projet, un collectif très solide, voilà, très solide et très 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 addictif, tu vois ce que je veux dire? Oui. Comment ils sont quelque part entre eux très agréables et très très soudés, voilà, très très soudés. Et ça, c'est très très important de monter un projet sur 20 joueurs, et après, quand tu as des blessés, tu prends des joueurs du centre de formation.
Moi, je me demandais justement si, Hugo, je ne sais pas si vous pouvez poser cette question-là, mais je me demandais justement Quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer quand on voit que bah, peut-être les joueurs d'aujourd'hui sont plus les mêmes que ceux d'il y a 20 ans? Et est-ce que seul on peut y arriver ou est-ce qu'il y a un staff derrière justement et comment vous travaillez ça, vous, de votre côté?
Non, à l'heure actuelle, au 21e siècle, les joueurs sont plus du tout les mêmes. Ils veulent bouger beaucoup et ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et quelque part, comment ils bougent beaucoup? Et donc, au 20e siècle, quelque part, nous, on restait dans nos clubs. Quelque part aussi, à l'heure actuelle, les joueurs veulent bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils veulent gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout. Et donc, ça, c'est un vice, quelque part, qui est un peu tordu au 21e siècle.
Non, justement, pour revenir à ce que tu dis dans la perspective d'une sorte de vice qui se sera installée dans le football de haut niveau, dans ce qu'attendent les joueurs, est-ce que ça ne vient pas aussi redéfinir la place de l'entraîneur? Et est-ce qu'à ce moment-là, pour quelqu'un comme toi qui a ce besoin en fait, de construire quelque chose sur du moyen-long terme, ça ne devient pas mission impossible en fait?
Ah non, non, ça devient, quelque part, Hugo, ça devient une mission impossible. Parce que tu te rends compte que maintenant, les entraîneurs, ils sont virés tous les 5 mois, tous les 6 mois. Et ils sont licenciés tous les 5 ou 6 mois. Et par rapport à ça, bon, les dirigeants licencient les entraîneurs. Et voilà, donc c'est très, très important. Tu vois, c'est très, très important.
Cette idée du licenciement qui intervient de plus en plus rapidement,
Oui.
tu l'associes souvent dans tes interventions à une forme de précarité qui intervient dans le métier d'entraîneur. Cette précarité-là, elle se traduit maintenant de différentes manières par rapport à ce que tu abordes. Comment on fait? Parce que tu évoques également un problème de culture comptable du résultat dans le football français. Comment faire quand on est entraîneur pour dépasser ça et mettre en avant ses convictions, ses principes?
Donc, il faut construire, sincèrement, il faut construire un projet. Il faut construire un projet sur 2, 3 ans, 4 ans, et voilà, et construire, comment tu construis un projet avec une solidarité interne très, très importante avec les joueurs. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Comment tu construis un projet? Nous, à l'époque, au 20e siècle, on construisait des projets sur 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et comment on construit un projet sur 3 ou 4 ans, 5 ans, et voilà, et comment on aborde ce système-là.
Aussi, je crois une passion pour la littérature, par exemple. Vous avez une grande ouverture d'esprit, des relations très proches avec vos joueurs. Et vous avez beaucoup voyagé en tant que joueur dans le championnat de France ou également en tant qu'entraîneur. Et est-ce que vous avez déjà été tenté par des aventures à l'étranger, justement, pour aller découvrir bah, d'autres façons de faire, d'autres façons d'entraîner, d'autres façons de jouer au football?
Donc, quelque part, moi, j'ai eu la sélection du Mali et j'ai eu deux clubs à Alger. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être la Suisse ou la Belgique, tu vois ce que je veux dire. Parce que je parle que français, quoi, tu vois, voilà, c'est tout. Et ça m'est très, très agréable.
Tu as parlé tout à l'heure de solidarité interne dans les projets que tu aimes mener, que tu as
Oui.
mené dans ta carrière. Quand tu évoques ça me fait penser instinctivement à Gaëtan Charbonnier durant ton passage brestois. Pour une raison assez simple, c'est que beaucoup de gens vont garder en mémoire sa saison 2018-2019, qui est celle de la montée, où il est tout simplement
Oui.
sur une autre planète. Techniquement, statistiquement, c'est le meilleur joueur du championnat. Mais avant cela, il arrive à Brest après une longue blessure. Quels sont les leviers pour ramener ce joueur à sa qualité première de footballeur? Et comment s'est opéré ton lien avec Gaëtan Charbonnier?
Gaëtan Charbonnier, c'est un ami. Même
Oui.
à l'heure actuelle, il est en Vendée et c'est un ami. Et quelque part, c'est un avant-centre qui est un buteur, qui est vraiment un buteur. Et il était en symbiose complètement avec Mathias Autrette. Oui. Mais complètement en symbiose.
Un duo. Et donc, incroyable.
Si tu veux des couples, si tu veux des couples, des pairs, tu vois, par exemple, j'avais Julien Fossurier et Gaëtan Bello, et c'était des couples très, très, très importants. Et quelque part, comment tu crées des pairs très, très importantes. Tu vois, c'est très... dans le football, comment tu crées des pairs d'une façon très solidaire, tu vois, très solidaire, et comment ils se comprennent, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est très, très important.
Sans caricaturer, est-ce que la qualité de la relation technique entre les deux dépend forcément de la qualité de la relation humaine? Est-ce que tu as déjà eu des joueurs qui ne s'entendaient pas du tout et qui étaient capables de très bien fonctionner sur le terrain?
Oui, oui. Il y a des joueurs, tu vois, j'avais Benjamin Nivet et Sébastien Grax à Troyes, et eux, ils n'étaient pas en relation directe, mais par contre, ils étaient un couple fantastique, mais phénoménal, phénoménal. Tu vois, ils arrivaient à se retrouver, à se trouver, mais c'était fantastique, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et par rapport à Mathias Autrette et à Gaëtan Charbonnier, là, c'était un couple phénoménal, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et c'était très, très important.
Si on s'arrête, et notamment ça me fait revenir sur la question qu'a posée Fred sur ton désir de départ à l'étranger, et tu as répondu avec le prisme du plaisir en disant ça ne m'intéresse pas forcément, il y a la barrière de la langue. Et dans les interviews que tu as données, justement, tu parles de Mathias Autrette et tu expliques qu'à Mathias Autrette, tu parlais souvent de son talent et tu lui disais ah, c'est un joueur qui serait largement capable d'avoir fait 10-15 ans de Ligue 1. Et à toi, il te rétorquait oui, mais coach, je suis heureux. Comment on fait pour garder en fait une sorte d'insouciance? C'est ça aussi, on a le sentiment beaucoup qu'on est en train de reprocher au football que les joueurs, que les entraîneurs perdent leurs insouciances et qu'ils oublient qu'ils jouent au football. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates depuis les dernières années?
Et tu sais, Mathias Autrette, quand j'étais à Auxerre, il tirait des corners. Et moi, je lui dis, putain, mais Mathias, toi, tu aurais pu jouer 15 ans en Ligue 1. Mais 15 ans! 15 ans Ligue 1. Non, mais je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement, il me disait, tu vois. Il me disait complètement. Et voilà. Et Mathias, c'est un très, très bon ami. Et puis, comme Gaëtan Charbonnier, tu vois, c'est un très, très bon ami. Voilà.
Vous parlez de votre relation avec les joueurs à Brest. On a parlé des années brestoises qui ont été sympathiques, je pense, pour vous, avec cette montée qui a conclu la belle aventure. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Brest et de ce coin de Finistère-là?
Ah non, mais je garde... D'ailleurs, ma femme, elle veut revenir dans le Finistère. Elle veut revenir dans le Finistère parce que je garde un merveilleux souvenir. Et tu sais, une fois, quand j'étais à la bibliothèque de Brest, j'y revenais parce que je lis beaucoup. Je lis beaucoup et je revenais tous les trois fois par semaine. Et il y a un grand costaud, à cheveux longs, il me tape sur l'épaule. Il me dit, vous êtes un sauvage, vous êtes comme nous. Vous n'êtes pas bordelais, vous êtes comme nous, comme les Brestois. Vous êtes un sauvage comme nous. Et puis c'est pareil.
Et, du coup, le fort caractère brestois, ça vous a marqué quoi?
Ouais, ça m'a marqué. Ça m'a marqué le tempérament de Brest et le caractère des personnages, des gens. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Voilà, c'est vrai, ça m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. D'ailleurs, une fois, on monte cette année-là, on monte la troisième année, et contre Valenciennes, on perd. Et alors qu'on n'avait que attaqué. On n'avait que attaqué. On perd 4-3 ou 4-2. Et voilà, et il y a un mec dans la tribune présidentielle qui m'insulte. Et comment je passe là, il m'insulte. Et moi, je lui fais un don d'honneur. Je lui fais un don d'honneur. Et tous les ultras, ils ont fait 3-4 pages dans le journal, comme quoi ils me soutenaient à fond. Ils me soutenaient à fond. Tu vois, voilà, donc c'était très très agréable. Voilà.
Et tu prends souvent cet exemple du match contre Valenciennes pour montrer qu'en fait, on peut susciter l'adhésion du public si on va vers l'avant. Tu dis aussi que le football français souffre de cette culture de la gagne, de la culture comptable. Si on revient à l'actualité un peu chaude, l'équipe de France elle traverse une période compliquée avec Didier Deschamps à sa tête. On sent qu'il y a un désamour du public. Comment tu
Oui, c'est vrai. Totalement, je suis d'accord avec toi, Hugo. Les entraîneurs français sont très défensifs. Et comment en Espagne, aux Pays-Bas, comment on marque des buts? Tu vois ce que je veux dire? Comment on claque des buts? Oui. Et moi, je suis un joueur, alors que j'étais stoppeur, hein. Je massacrais les avant-centres. Je massacrais les avant-centres. Mais par contre, j'adorais le FC Nantes et j'adorais le jeu offensif et le jeu de possession. Tu vois ce que je veux dire? J'adorais ça. J'adorais ça.
Comment tu expliques du fait que si on est dans une sorte de caricature, sans trop généraliser les choses, mais les entraîneurs qui ont en main les plus grandes sélections, les plus grands clubs, ont des joueurs de meilleure qualité que ceux que tu as pu avoir, toi, entre les mains. Et pourtant, on voit parfois des grandes différences, justement, dans l'envie ou non d'aller vers l'avant. Comment tu expliques ça?
Ah non, là, je ne l'explique pas, parce que, carrément, moi, j'aurais voulu avoir... Sincèrement, là, je suis pas c'est pas le cas, hein, c'est pas du tout mon cas, parce que j'ai toujours entraîné des clubs de Ligue 2 et puis je suis monté 5 fois. Mais comment j'aurais voulu entraîner 4 ou 5 clubs de très haut, très très haut niveau, tu vois ce que je veux dire?
Oui,
de très haut niveau et avec des joueurs de très très grande qualité. Voilà, c'est ça m'aurait fait énormément plaisir.
Bien souvent, dans l'optique de vision du football français, on prend la victoire de 1998 comme une référence, un déclic, un moment charnière qui a certes unifié la foule autour du football, autour de Zinedine Zidane, mais est-ce que finalement, ce succès-là, il n'a pas fait plus de mal à l'idée qu'on se fait du jeu?
En France, par rapport, on se fait quelque part un jeu très défensif, hein. Très 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 défensif et c'est pas comme aux Pays-Bas ou en Espagne où tu vois il y a un jeu très très offensif et très 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 de l'attaque et quelque part les entraîneurs français eux ils ne font que quelque part défendre quoi, je veux dire, voilà, c'est ça.
Toi, par exemple, à titre personnel, on imagine quand même que tu te définirais, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais comme un coach différent de celui que le coach que tu étais, pardon, à Auxerre, par exemple, est différent de celui que tu étais à Libourne. Comment tu fais pour te renouveler, pour regarder un peu les innovations tactiques, les équipes en vogue? Qu'est-ce qui t'importe le plus, en fait, dans la manière dont tu t'inspires de ce qui se fait dans ton domaine?
Non, moi, mais même quand j'étais à Libourne, je faisais un jeu très, très offensif, hein. Très, très offensif. Et d'ailleurs, on a performé en Coupe de France. Tu vois ce que je veux dire? On a beaucoup, beaucoup performé en Coupe de France. Mais j'avais un jeu très, très offensif. Et j'ai toujours eu ça. Toujours eu ça.
Est-ce que quand on est entraîneur de Ligue 1, justement, et que... On est Jean-Marc Furlan, quand le président il vous recrute, il sait qui il recrute. Alors j'imagine qu'il le fait pour vos qualités de manager, mais aussi pour le technicien. Et est-ce que c'est facile de vendre un projet comme ça à un président qui veut peut-être parfois un peu assurer le coup dans des clubs où on veut parfois essayer de monter, mais aussi ne pas descendre? Voilà. Alors comment on fait quand on est Jean-Marc Furlan pour vendre ça au président?
Je le vends pas parce que quelque part les présidents ils, ils veulent que défendre, quoi. Voilà, c'est tout. Ils veulent que défendre et bloquer le but adverse. Et donc, bloquer notre but. Et voilà. Mais quelque part, moi, ce que j'adore, c'est le jeu offensif. Voilà, le jeu offensif et le jeu de possession. Voilà.
Eh ben, merci Jean-Marc,
merci beaucoup
d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Très bien, merci beaucoup Jean-Marc.
Avec grand plaisir.
Merci Fred également. Merci beaucoup.
Allez, ciao.
Bientôt. Merci Hugo, merci Fred et un grand merci à Jean-Marc Furlan qui a répondu aux questions du LEM Sport.
LEM, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.